Radio Kapi.
Alors que l'établissement s'apprête à accueillir les élèves lundi prochain, l'Institut Lualaba voit ses bâtiments partir en fumée. L'origine du feu n'est pas connue. Le préfet de l'école lance un cri de détresse pour permettre la reprise des activités scolaires. Vive tension hier à Kasumbalesa. Les proches d'un homme bien connu de la place, tué par des bandits, ont violemment manifesté. Ils ont saccagé plusieurs édifices publics, dont les bureaux de la police, et emporté des armes. Docteur Jean-Pierre Kiswaba, médecin à l'hôpital général de Kananga, est notre invité. Il formule quelques recommandations en marge de la journée mondiale de lutte contre l'hépatite célébrée le 28 juillet dernier. Bonsoir à tous. Ouvrons ce journal avec cet événement malheureux qui survient à une semaine de la reprise de cours suspendue à cause du coronavirus. Les autorités scolaires et les élèves de l'Institut Lualaba sont dans le désarroi. Les bâtiments de cet institut sont partis en fumée hier lundi et l'origine du feu reste inconnue. Le responsable de l'établissement appelle à l'assistance. La police, elle, dit avoir ouvert une enquête. C'est ce que nous raconte François-Xavier Mibé.
L'incendie s'est déclaré autour de 17h locales. Il s'est produit alors que les enfants jouaient dans la cour scolaire. La toiture de l'école, l'Institut Lualaba, est construite en paille. Le préfet des études a encore du mal à se situer sur l'origine du feu. Le préfet, Jean Muyumba Kalunga.
Ces deux bâtiments ont été incendiés totalement. Dans la cour scolaire, il y a eu des enfants qui jouaient là, mais d'un seul coup, ils étaient tous éparpillés. C'est à un certain moment qu'on va dire maintenant qu'il y a du feu sur le bâtiment.
L'Institut Lualaba est un établissement scolaire qui organise depuis 2011. Un cycle complet des humanités pédagogiques. En 2015, l'Institut a sorti ses premiers diplômés. Le responsable scolaire lance un SOS pour permettre à l'école de reprendre ses activités scolaires.
Nous ne savons pas ce que nous devons faire pour trouver la paille et autres choses pour la reconstruction. Le territoire a eu beaucoup de problèmes à cause des conflits. Voilà pourquoi nous prions aux autorités scolaires, politico-administratives, de songer à notre situation et beaucoup plus aux hommes de bonne volonté de nous aider.
L'Institut Lualaba et de la communauté adventiste, mouvement des réformes. Il a admis environ 200 élèves avant les confinements à cause de la crise sanitaire due à la COVID-19. Kalemi, François Djabemibé, Radio Kapi.
Dans la Tchopo, les autorités provinciales et scolaires prennent des dispositions pour une reprise de cours sécurisée dans les différents établissements d'enseignement primaire et secondaire lundi prochain. C'est ce qui explique la désinfection des bâtiments de ces écoles 3 jours durant le week-end dernier à Kisangani. Jacques Mkonkole.
À Kisangani, la désinfection a concerné toutes les écoles aussi bien publiques que privées. Au total, plus de 5000 salles de classe désinfectées avec l'appui de certains partenaires tels que l'UNICEF et Enabel, comme l'explique le ministre provincial de l'éducation Thomas César Messemo Wamessemo.
Le gouvernement provincial que dirige Maître Louis-Marie Wale Lufungula a pris en charge la désinfection de toutes les 5010 salles de classe de la ville de Kisangani. Il y a certains partenaires tels que Enabel, tels que UNICEF qui nous sont venus aussi en aide.
Ces agences ont fourni notamment des masques pour enseignants, du chlore ainsi que des dispositifs de lavage des mains. Quant à l'opération de désinfection, elle a été réalisée par la Croix-Rouge du Congo dont le mandat consiste notamment en la prévention. Prosper Mokili est son chef de division en charge de la communication.
À raison de prévenir contre la pandémie des coronavirus dans des écoles que la Croix-Rouge a mené cette opération. Donc, c'est dans sa mission traditionnelle et pour que la population scolaire puisse être prévenue de cette maladie.
À partir de jeudi prochain, depuis Isangi, le ministre provincial en charge de l'éducation va superviser la même opération dans quelques écoles des grandes agglomérations de la Tchopo. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Kapi.
Nous l'avons dit, c'est le lundi prochain 10 août que les finalistes du primaire et du secondaire reprennent le chemin de l'école. C'est pour un mois et pendant cette période, ils auront à passer leurs épreuves de fin de cycle. Après plus de 4 mois passés à la maison, comment parents et élèves appréhendent cette reprise de cours? Réponse dans ce reportage de Babel Pongo Massimango.
Du côté des parents des finalistes, les préoccupations divergent. Elles vont de la nécessité de la révision des matières avant les tests aux finances.
Les enfants, ils ont vraiment oublié la matière qu'ils ont.
par rapport au premier semestre, si on peut réviser la matière et puis continuer.
Côté hygiène, qu'on veille côté hygiène pour qu'il y ait des dispositifs de lavage des mains, pour ce qui est des frais, qu'on nous accorde un peu de temps parce que nous venons du confinement.
En tout cas, toujours en difficulté.
Pour les élèves, l'inquiétude est plutôt liée au temps imparti pour préparer les examens.
La reprise de cours après 4 mois à la maison, c'est un peu lourd. Attentionnement, c'est vrai que je suis un peu stressée. Je dois seulement étudier pour préparer les examens et un pas pour l'université.
Vu qu'on a fait 150 jours à la maison, il faut qu'on nous laisse aussi un peu de temps. On se prépare, l'horaire là, et après une semaine la dissertation, après une semaine, etc. C'est un peu compliqué.
D'après le calendrier réaménagé jusque-là, le TENAFEP, test national de fin d'études primaires, est prévu du 13 au 14 août. Les hors-sessions de l'examen d'État la semaine du 17 au 22 et la session proprement dite du lundi 24 au jeudi 27. Mais ces dates d'examen pourraient être décalées. Une commission technique y travaillerait déjà, d'après des sources du ministère de l'EPST.
Restons à Kinshasa où quelques jours seulement après la levée de l'état d'urgence sanitaire, le bourgmestre de la commune de Bandalungwa a mis sur pied depuis le week-end dernier des brigades spéciales pour arrêter ceux qui sont à la base des nuisances sonores. Bailon Gaïbéné déploie aussi des efforts pour lutter contre le coronavirus dans sa juridiction. C'est un reportage signé Enoch Matondo.
Concernant la pollution sonore, c'est depuis le samedi 1er août que les brigades circulent dans tous les quartiers de Bandalungwa. Bailon Gaïbéné promet des mesures fortes.
La police, je les ai instruits qui descendent sur les terrains, les personnes qui ne respectent pas les arrêtés de la ville-province de Kinshasa, ils seront arrêtés au risque que nous puissions retirer toutes les autorisations d'exploitation à Bandalungwa. Nous avons sensibilisé la population afin que toute personne qui verra la terrasse qui joue la musique forte puisse téléphoner le bourgmestre. Et enfin, on envoie la police, on va arrêter ces tenanciers des bars puisqu'on ne peut plus tolérer que les gens abusent avec la pollution sonore.
Les positions sont également prises concernant la lutte contre la COVID-19.
Désinfecter des terrasses, des boîtes de nuit, des magasins, les hôtels à Bandalungwa pour éviter qu'il y ait des contaminations puisque vous savez, vous pouvez vous asseoir sur une chaise. Quelqu'un d'autre qui était avant vous, en s'élevant, il avait touché et vous venez toucher, votre main glisse sur le nez. C'est fini, vous êtes contaminé. Une fraction de seconde, la bête est dans vous. L'ennemi invisible est bien là. Nous allons vivre avec. Respectons deux mesures barrières en ce qui concerne le port de masque, la distanciation, la lavez-vous les mains à tout moment, buvez beaucoup d'eau.
Toutes ces mesures seront de stricte application, a dit le bourgmestre Bailon Gaïbéné.
Notez que la commune de Bandalungwa compte 222 malades et n'a enregistré aucun décès dû au coronavirus jusqu'à présent. Je l'ai dit à l'ouverture de ce journal, la ville frontalière de Kasumbalesa était en ébullition hier lundi. À la base, le meurtre par balle par des bandits armés d'un habitant du coin bien connu de la population. Pris de colère, ses proches ont vandalisé plusieurs édifices publics dont les tribunaux de paix et les sous-commissariats de la police. D'après le maire de Kasumbalesa, les manifestants ont emporté les armes après en avoir brûlé quelques-unes. Le récit de Jean Gadou.
D'après plusieurs sources sur place à Kasumbalesa, dans la nuit de dimanche à lundi, aux environs de 3h du matin, les bandits armés se sont introduits dans deux maisons au quartier Moussoumali. Dans l'une, ils ont tiré sur un homme en pleine poitrine et qui a succombé après. Et dans l'autre, ils y ont blessé un autre au bras. Après ces forfaits, ils se sont volatilisés dans la nature. Le matin, les proches de ces deux victimes ainsi que d'autres personnes ont violemment manifesté et ont vandalisé plusieurs bureaux de la police en portant des armes. Des précisions avec le maire de Kasumbalesa, André Kapampa.
Plusieurs soucis. Plusieurs autres bureaux d'escadron de la police et les maisons d'à peu près 5 policiers ont été vandalisés. Les tenues, quelques armes et munitions ont été récupérées. Et parmi ces armes, 10 armes venaient d'être retrouvées, brûlées. Les émeutiers ont brûlé la caisse de munitions et plusieurs autres armes sont en train de se retrouver dans les mains de personnes non identifiées.
Nous apprenons que des bandits armés se sont une fois de plus illustrés en visitant cette nuit quelques maisons dans le quartier Soudimiko 3, cellule Mouyoutou. Là aussi, ils ont tiré sur deux personnes, dont l'une a rendu l'âme ce matin aux environs de 7 heures. L'autre est dans un état critique, rapporte la société civile locale. Information confirmée aussi par le maire de Kasumbalesa. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Au Nord Kivu, début hier lundi à la cour militaire de Goma, de l'audience consacrée au réquisitoire du ministère public et à la plaidoirie de la partie civile de la défense dans les procès Ntabo Ntaberi Cheka. Mais contre toute attente, cette audience a été suspendue et remise à vendredi suite à l'obscurité dans la salle et l'absence manifeste de l'État congolais civilement responsable dans la présente cause. Le compte rendu de Gabriel Wamenya.
L'audience a démarré en fait de la matinée d'hier lundi avec la plaidoirie de la partie civile représentée par une dizaine d'avocats. Dans leur plaidoirie, ces avocats qui se sont succédés sur la barre ont commencé à retracer l'historique du mouvement du Nduma Defense of Congo NDC créé par les prévenus Thabo Ntaberi Tcheka au mois de juillet 2007 et dont le premier quartier général était installé dans une localité du territoire de Walikale communément appelée Kirumba. C'est avant de démontrer la planification des attaques et pillages de plusieurs localités. Dans la première partie de sa plaidoirie, la partie civile a démontré largement et sans équivoque la planification, les attaques ainsi que les pillages menés dans quelques cités commerciales du territoire de Walikale, parfois par les NDC de Tcheka seul ou en coalition avec les rebelles hutu-rwandais, les FDLR, dans les cités de Luvungi, Mubi et Pinga. À Luvungi, plus de 300 femmes auraient été violées par les hommes de Tcheka et de Séraphin Zitonda. Faute de lumière dans la salle d'audience, la cour a suspendu l'audience et l'a renvoyée au 7 août prochain. Goma, Gabriel Wamenya, Radio Okapi.
Autre nouvelle, la conseillère spéciale du chef de l'État en matière de la jeunesse et de lutte contre les violences faites à la femme, Chantal Moulop, a remis hier lundi en service la ligne verte le 122, créée pour permettre aux femmes et filles victimes des violences sexuelles de dénoncer les actes dont elles ont été l'objet. Le conseiller en charge de questions de genre au bureau de la conseillère spéciale, Gobi Kinkoufi, explique comment, dans la pratique, fonctionne cette ligne verte.
Lorsqu'on est victime de violences sexuelles ou même toute autre forme de violence faite à la femme. Elle appelle le numéro 122 selon le réseau qu'elle utilise parmi les quatre réseaux. Alors, une fois qu'elle appelle le numéro 122, elle sera reçue par des opérateurs qui ont été suffisamment formés pour cela. Elle explique le problème qu'elle vient de connaître. Et les opérateurs l'orientent selon le milieu où elle se trouve. Parce que nous avons la prise en charge psychologique, nous avons la prise en charge juridique, nous avons la prise en charge médicale. Alors, la prise en charge dépendra du besoin que la victime exprime.
La victime peut appeler à tout moment, même la nuit, même le jour.
La victime appelle à tout moment parce que la ligne verte est opérationnelle 24 heures sur 24. Et les dispositions sont prises de telle sorte que les opérateurs se relayent. Donc c'est une ligne qui ne sera jamais fermée.
Après un peu plus d'une année d'interruption, cette ligne initiée en son temps par l'actuelle présidente de l'Assemblée nationale est ainsi relancée grâce au concours logistique du Fonds de l'ONU pour la population et du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme.
Actualité internationale.
La Chine a accusé ce mardi les États-Unis de se livrer à une intimidation pure et simple après que Donald Trump a ordonné la vente d'ici à mi-septembre du très populaire réseau social TikTok. Celui-ci appartient au chinois ByteDance, mais Microsoft a annoncé poursuivre les négociations pour l'acheter. TikTok fermera aux États-Unis le 15 septembre, à moins que Microsoft ou une autre entreprise soit en mesure de l'acheter et de trouver un accord, a annoncé hier lundi le président américain à propos de l'application qui compte environ 1 milliard d'utilisateurs dans le monde, principalement des adolescents. TikTok est accusé par le président américain de récolter des données personnelles et des informations pour le gouvernement chinois. La France peut basculer à tout moment et perdre le contrôle du coronavirus. Dans un document remis au gouvernement le 27 juillet et rendu public ce mardi, le Conseil scientifique français avertit que l'équilibre est fragile et que le pays peut basculer à tout moment vers une reprise incontrôlée de l'épidémie de Covid-19. Alors que la France connaît une recrudescence des cas, il insiste sur l'importance des mesures barrières et juge hautement probable qu'une seconde vague épidémique soit observée à l'automne ou l'hiver prochain.
L'invité.
Le 28 juillet dernier, c'était la journée mondiale de lutte contre l'hépatite. À Kananga, le docteur Jean-Pierre Kiswaba, médecin à l'hôpital général, formule quelques recommandations pour prévenir cette pathologie. C'est notamment la méfiance aux partenaires sexuels occasionnels, l'utilisation des préservatifs et la transfusion sanguine sécurisée. Docteur Jean-Pierre Kiswaba s'entretient avec Blaise Ndongala.
Docteur Jean-Pierre Kiswaba, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Le monde a célébré le 28 juillet la journée mondiale de l'hépatite. Quel état des lieux dressez-vous de cette maladie au Kasaï central?
L'état des lieux est difficile à dresser parce que c'est une maladie asymptomatique. C'est pourquoi il nous est difficile de dresser un état des lieux par rapport au Kasaï central.
Docteur, quels sont les signes cliniques de l'hépatite?
Quand la maladie elle est déjà là, les signes cliniques que nous pouvons avoir, les maux de tête, l'asthénie physique qui peut être intense. Le malade se plaindra d'une douleur localisée à l'hypochondre droit et il peut aussi manifester l'ictère communément appelée jaunisse.
Et comment cette maladie se transmet-elle d'une personne à une autre?
Nous avons la transmission sexuelle, c'est-à-dire quand vous avez une relation sexuelle avec un partenaire méconnu et qui peut avoir cette maladie. Donc la maladie peut se transmettre dans ces sens-là. La maladie peut aussi se transmettre de la bouche, donc c'est-à-dire c'est une maladie des mains sales. Donc nous disons c'est une maladie, la transmission peut être aussi fécorale, c'est-à-dire quelqu'un qui a touché les matières fécales de quelqu'un qui a cette maladie peut facilement être transmis à travers les matières fécales. Et la transmission aussi mère-enfant, une maman qui est porteuse de l'hépatite peut transmettre facilement cette maladie à son enfant pendant l'accouchement.
Pendant l'allaitement aussi?
L'allaitement n'a pas été démontré jusque-là. Il n'y a que pendant l'accouchement ou le manœuvre obstétrical, s'ils ne sont pas bien conduits, la transmission peut être aussi possible.
Quels sont les comportements à risque ou qui peuvent exposer quelqu'un à être contaminé de l'hépatite?
L'hépatite a plusieurs causes, comme on l'a dit. Nous avons les causes virales, nous avons les causes bactériennes, nous avons les causes toxiques et puis les causes auto-immunes. Et par rapport à la prévention, nous demanderons à la population d'avoir les relations sexuelles protégées avec les personnes qui sont pas connues. Par rapport à l'hépatite qui est toxique, c'est l'hépatite qui peut être dit soit par l'alcool ou soit les médicaments. Nous demanderons à la population, si vous êtes malade, consultez l'hôpital, qu'on vous prescrive les médicaments selon les doses connues. Et à ceux-là qui prennent l'alcool, de ne pas faire l'abus de l'alcool et prendre l'alcool dit de façon limitée. Et cela pourrait donc prévenir la survenue de l'hépatite communément appelée hépatite toxique. Pour l'hépatite bactérienne, quand on se sent malade, on vient à l'hôpital parce que dans l'hépatite bactérienne, le germe qui est plus incriminé, c'est le germe par rapport à la fièvre typhoïde qu'on appelle les salmonella typhi. Quand vous êtes malade, venez à l'hôpital, qu'on vous traite cette maladie-là à temps. Ça va vous épargner que le germe en question puisse vous amener à faire ce que nous appelons l'hépatite bactérienne, dont l'agent causal principal serait les salmonella.
Il y a certaines personnes qui parlent aussi de la transfusion sanguine sécurisée.
Oui, la transfusion sanguine. Par rapport à ça, nous demandons toujours à la population, si vous avez un enfant qui a besoin du sang, vous avez un adulte qui a besoin du sang, venez à l'hôpital où les conditions de prélèvement sont réunies. Je vais dire quoi par là, où avant de donner le sang, on teste chez le donneur par rapport à l'hépatite. S'il n'a pas l'hépatite, à ce moment-là, son sang est compatible, on peut lui donner à quelqu'un d'autre. Mais sinon, si dans certaines structures où on n'est pas à mesure de diagnostiquer l'hépatite par rapport au donneur, ça c'est vraiment un risque. Parce que quelqu'un qui a l'hépatite, s'il n'a pas été testé avant de donner son sang, il va donner à quelqu'un un sang déjà malade et cette personne serait contaminée aussi de l'hépatite.
Une fois malade, comment quelqu'un peut se soigner de l'hépatite?
Normalement, quand l'hépatite est déjà là, les 3 semaines qui suivent, si l'organisme n'a pas pu vaincre l'infection, cette maladie-là évolue vers la chronicité, ce que nous appelons l'hépatite chronique. Donc, quand vous avez les signes que nous avons cités, vous avez une douleur au niveau de l'hypochondre droit, vous avez l'ictère, vous avez la fièvre, vous sentez la fatigue, consulter à l'hôpital. À ce moment-là, on peut vous orienter par rapport à la prise en charge.
Que répondez-vous, docteur, à ceux qui consultent les tradis praticiens par rapport à cette maladie?
Nous disons ceci. Vous savez que chez les tradis praticiens, ils donnent les médicaments qui n'ont pas de dose. Nous avons parlé de l'hépatite toxique ici. Quand vous prenez un médicament qui n'a pas de dose, les surdosages, la plupart de mes médicaments sont métabolisés au niveau hépatique. Les surdosages au niveau hépatique peut entraîner aussi ce que nous avons appelé l'hépatite toxique. C'est pourquoi nous leur demandons, quand vous êtes malade, venez à l'hôpital, qu'on vous consulte et qu'on vous prescrive les médicaments selon les doses pour éviter à ce que vous puissiez basculer dans ces états des hépatites médicamenteuses.
Docteur Jean-Pierre Kiswaba, merci d'avoir répondu à nos questions.
C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste.
Ainsi s'achève cette édition mise en onde par Jean-Claude Ntiala, Noël Alouzi, tout la coordonnée sous la supervision d'Axel Goncho. Je suis Jocelyne Moussa-Opondé. Merci de nous avoir suivis.